Nous sommes repartis après cet extrait de John Coltrane, My Favorite Things, avec en bande son toujours les triplettes de Belleville. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Véronique Moisson, suite à la sortie de son ouvrage Les voleurs de destin chez Villèle Édition. Vous nous disiez que c'était un attachement particulier que vous aviez par rapport au saxophone. Bah, je vous laisse lire du coup l'extrait qui concerne cette partie, enfin l'utilisation de cet instrument dans votre roman.
Je vous lis l'extrait. Donc, le jeune Anaël qui vit à Sarlat est un jeune qui a des difficultés de communication et qui s'enferme régulièrement dans un souterrain en ogive pour jouer du saxo. Anaël s'éclipsa dans les sous-sols de la maison. Un souterrain en ogive conduisait à une pièce très haute au plafond cathédral, ornée d'une seule sculpture en son sommet, une salamandre. De fines colonnes hexagonales se détachaient des arêtes des larges murs pour rejoindre, sans cassure, cet animal immobile. Au centre de cet univers silencieux et intemporel, qui aurait pu accueillir un orchestre de 10 musiciens et 50 spectateurs, Anaël ouvrait l'étui de son saxo. Puis, les yeux fermés, pour mieux ressentir les sons, la propagation des ondes et le pouvoir de son souffle à offrir un chant au silence, il inspira profondément. Alors, il reçut autant qu'il donnait le bonheur d'une musique improvisée, chaque fois sur un thème différent. Il lui arrivait parfois d'écrire les passages les plus remarquables de ses instants. Le cahier de portée, posé dans une niche, contenait déjà une centaine de pages. Certainement inutiles, mais peu importe. C'était le seul moyen de capter ces instants fugitifs.
Cette passion pour le saxophone, c'est pour l'instrument vraiment ou c'est pour l'utilisation qui en est faite, la présence dans le jazz en particulier?
Oh, c'est pas une passion pour le saxo, c'est vraiment une passion pour la musique. Une passion parce que la musique me fait vraiment vibrer, ça me provoque des émotions très intenses. J'ai joué un peu de piano quand j'étais jeune et jamais je n'ai réussi à me procurer à moi-même une seule sensation agréable. C'était un travail, c'est tout. Mais je crois que j'ai vraiment appris à aimer et j'aime la danse. Donc quand j'écoute de la musique, j'ai le corps qui bouge. J'ai envie de bouger, que ce soit du saxo, du piano, de la musique contemporaine, du jazz ou de la musique classique. J'ai beaucoup de mal à parler de la musique, mais parfois certains morceaux peuvent presque me faire tomber dans les pommes. Voilà, s'ils ne me font pas danser.
Un autre personnage particulièrement important, c'est le mage qui guide.
Oui.
Les enfants, enfin les enfants, les adolescents.
Les ados, oui.
Dans leur recherche,
il les aide à éclairer.
Je veux pas dire symbole du père parce que ce sera un raccourci peut-être un peu facile.
Pourquoi pas, hein. Ouais. Mais étant donné que ce sont des jeunes qui sont orphelins, il les aide à avancer dans leur vie. Alors il apparaît surtout auprès de Caliel, le jeune homme qui lui n'est pas musicien mais écrit. Je vous lis un passage. Alors ce personnage qui est le mage s'appelle Aladia pour Caliel et on ne le sait pas, on peut peut-être le deviner. Il y a un autre personnage qui s'appelle Eleste et qui a aussi une vie un peu éternelle, dont on raconte la vie dans un livre noir. Et là, c'est Anaël qui découvre ce livre noir. À la fin, on apprend que ces deux personnages, en fait, ne sont qu'un. Donc voilà un passage de ce livre noir que découvre Anaël. Après cette frénésie de vivre, de pactiser avec tous les diables de la terre, je décidai de rallier la cause des hommes. Le premier être qui atteignit mon âme, un vieillard de 70 ans rencontré dans une auberge aux environs de Lyon, suppliait le ciel de lui offrir un ami. Il recherchait un homme assez jeune pour accomplir une mission périlleuse à travers les lignes ennemies et je faisais parfaitement illusion malgré mon grand âge. On me donnait 40 ans tout au plus. Nous étions très exactement en 1916, l'année de mes 199 ans. Une semaine plus tôt, je coulais des jours paisibles sous l'identité de Jacques Sevilla dans un village de Corse, avec la merveilleuse Eléa, ma huitième femme, rencontrée en Russie dans un voyage à travers les capitales slaves. Jolie blonde, délicate à souhait, au petit dragon d'or tatoué sur l'épaule droite. Malheureusement, je devais retourner comme tous les 20 ans à l'abbaye de Fontevraud pour y accomplir une sorte de pèlerinage, dont j'hésite encore à révéler le secret. Tant de pages et de pensées à livrer encore, avant de refermer ce livre dont je n'ai pas imaginé la fin. C'est donc à Lyon, sur mon parcours, que je décidai de changer ma route. Voilà donc les paroles d'Eleste, qui est le mage du livre noir.
Le choix de faire intervenir ce mage donc, de deux façons différentes, soit par apparition légèrement fantomatique et aussi à travers cet ouvrage. Comment ça s'est construit ces choses-là? Parce qu'on avait éventuellement un risque de savoir trop vite.
Je ne le savais pas moi-même.
D'accord.
Au début de l'histoire, je ne l'ai su que dans les dernières pages, presque à la dernière ligne, que j'avais envie que ce personnage soit le même. Et c'était possible. Je n'écris pas de scénario d'histoire. Je crée les personnages, je crée une ambiance et c'est eux qui m'emportent. Donc je ne sais pas ce que je vais écrire. Je ne sais pas ce que je vais tirer de moi. Je m'étonne parfois. Voilà, donc je pense que c'était bien parce que ce soit la même personne qui ait guidé les deux, parce que les deux jeunes se sont retrouvés. Ce n'est pas tout à fait un hasard.
Votre construction, vous la qualifieriez du coup de chaotique ou...
Comme la vie. Chaotique, si vous voulez. Oui, oui. On ne sait pas où on va. Je me le demande toujours pour moi. Et je pense que je fais la même chose dans ma vie. Je me projette dans des endroits avec des gens et je ne sais pas toujours ce qui va m'arriver. J'essaie d'ouvrir les portes pour laisser entrer le maximum de choses, le maximum de rencontres, et puis pouvoir créer de bons moments, comme dans les livres. Alors, est-ce que vous voulez,
oui,
puisqu'on en est à la créativité, que je vous parle de la créativité de l'autre personnage qui est Caliel? Quand je vous parle de créativité, c'est parce que la créativité m'intéresse. La créativité, c'est la vie et c'est une façon de communiquer. Donc, on a Anaël qui joue du saxo et Caliel, lui, écrit. Et donc, il se plonge dans l'écriture et il a des boules de cristal sur son bureau où il essaie d'écrire pour avancer dans sa vie, pour regarder derrière lui et puis pour essayer de se projeter. Imaginez ce qu'il pourrait vivre s'il arrivait à construire cette vie. Puisqu'il devait attendre, il choisit de se remettre à l'écriture. Il souleva la boule de cristal noir, bouillonnant d'idées pour faire avancer son roman et se choisir une vie dans l'infini de l'imaginaire. Il relut les dernières lignes pour s'imprégner des lieux et des événements. Il réalisa alors qu'Aladia constituait un lien entre son roman et sa vie. Il portait le même nom, agissait de la même manière et avec les mêmes pouvoirs. Tout le reste était créé dans un esprit fantaisiste et sans contrainte. Lui-même, en écrivant, se projetait dans le corps d'un enfant de 2 ans, puis dans celui d'un jeune adulte employé dans une entreprise d'informatique et accablé par la solitude. Un personnage étrange qui passait ses week-ends sur Internet à rechercher l'âme sœur en constituant des portraits robots et fréquentait des boîtes de nuit gothiques habillées en chevalier noir du 21e siècle. D'autres créatures de son récit puisaient leur essence dans ses rêves ou ses désirs, dans quelques vagues rencontres, une silhouette dans une rue. Les fantasmes de Caliel prenaient parfois une forme féminine, mais il ne connaissait qu'à travers ses lectures les frissons du contact charnel. Avant d'entamer un nouveau chapitre, il relut avec plaisir le passage où Aladia avait pétri une femme d'argile contre un arbre près du pigeonnier. Il songea à découvrir si ce corps statuaire existait vraiment. En approcher les formes, s'en émouvoir, alors qu'aucune présence féminine ne lui était jamais apparue dans le parc, en dehors de Manille. Il méprisait les contacts sur Internet ou les sorties dans les lieux branchés, dans le but de pêcher une sirène. Comment se mettre à l'épreuve de la féminité, d'argile ou de chair? L'idée du désir constitua une passerelle entre son roman et la réalité. Voilà, une quête de féminité à travers un personnage d'argile. On se demande s'il y arrivera, mais bien sûr, il y arrivera.
Une relation avec la gente féminine un petit peu compliquée de temps en temps pour les personnages?
Un peu difficile, oui. Je pense que quand on n'arrive pas à se projeter dans la vie, on n'arrive pas non plus à se projeter dans une relation amoureuse. C'est compliqué. Et quand on n'a pas l'image d'un père et d'une mère, puisqu'on est orphelin, on n'a pas non plus auprès de soi cet idéal qui pourrait nous inspirer.
Vous avez aussi une passion pour la poésie.
Oui, effectivement, j'écris beaucoup de poésie, mais j'aime tellement la poésie, c'est presque comme la musique, que c'est un chantier permanent. Des poèmes que j'ai écrits, je crois que j'en ai écrit des centaines, je suis incapable de me dire qu'ils vont être publiés, parce que j'ai besoin de les relire et de les changer, de les faire évoluer. Alors, dans ce livre, j'adore Éluard, j'adore ses poèmes d'amour, j'adore son poème de liberté. Et dans ce livre, Anaël offre un poème à Anina. Anaël est donc saxophoniste et Nina violoniste. Je vous lis le passage et le poème complet qu'on n'a pas pu mettre dans le livre pour des problèmes de droit. Le paquet contenait également un livre. Elle murmura le titre. Poésie et vérité de Paul Éluard. Toi aussi tu aimes la poésie? Quelquefois, j'ai découvert ce recueil au lycée. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai pensé à toi. Alors que les autres apprenaient liberté, je connaissais N par cœur. Des autres textes, je n'ai rien retenu. Tu me les diras. N ? Étrange titre pour un poème, c'est vrai. Il commence comme ça. À quoi penses-tu ? Au milieu du texte, je pensais à ma mère avec tristesse, son visage oublié. Et puis je rêvais avec les mots de la fin. Il faut la voir au dur soleil, grévé de roches inaccessibles. Il faut la voir en pleine nuit. Il faut la voir quand elle est seule. Je l'imaginais comme un mirage qui pourrait prendre vie. Nina se coula dans ses bras et lui chuchota de partir explorer son mystère. Elle avait assez de poésie pour rêver cet après-midi. Si elle s'ennuyait, elle sortirait pour flâner. Anaëlle s'étonna de cette hardiesse conquise auprès de Nina. Je vais vous lire le poème complet, N d'Éluard. À quoi penses-tu ? Je pense au premier baiser que je te donnerai. Baiser semblable aux paroles du rêveur. Vous êtes au service des forces inventées. Aux rues de petites amours, les murs finissent en nuit noire. J'aime, et mes rideaux sont blancs. Sans éclat et douce à son nid, elle apparaît dans un sourire. Le 21 du mois de juin 1906, à midi, tu m'as donné la vie. J'ai dit facile, et ce qui est facile, c'est la fidélité. Il faut la voir au dur soleil grévé de roches inaccessibles. Il faut la voir en pleine nuit. Il faut la voir quand elle est seule. 1942. Voilà donc ce poème qui mérite peut-être un instant de silence. Ce poème qui est pour moi, dans ce livre, une pensée pour la mère que l'on n'a pas connue, une preuve d'amour réciproque qui existe malgré tout.
En illustration, sur la couverture, vous avez choisi une photographie qui représente un détail de la fresque de la salle capitulaire de Fontevraud. Pourquoi un détail, même si, en ayant lu le roman, c'est évident que le détail avec la main s'imposait ?
Voilà, c'est exactement le mystère de la main. J'ai cherché une main qui donne envie de découvrir son mystère. Je ne savais pas que j'allais puiser dans la fresque de Fontevraud. J'aime cette fresque et ce que j'aime surtout, je vous l'ai dit, c'est quand j'entre le visage de Louise de Bourbon, ce visage spectral qui m'interpelle. C'est vraiment la partie que je préfère de la fresque, si j'en avais une à choisir. Mais là, pour ce roman, je ne voulais pas qu'un visage nous interpelle tout de suite dans sa dureté. Voilà. Je préfère laisser le mystère d'une main. Et que les gens aillent découvrir la fresque totale en allant à Fontevraud dans la salle capitulaire. Puis on voit bien les lignes de cette main avec quelques écorchures peut-être liées au temps. On se demande si on ne voit même pas une bague à un doigt alors que c'est fort improbable. C'est peut-être juste une petite lueur.
Quelque chose que vous souhaiteriez nous dire de plus à propos du roman ou...
Oh. À propos du roman, oui, j'avais encore sélectionné un extrait. Je m'en aperçois en ayant sélectionné des extraits que j'ai beaucoup travaillé la relation à l'autre et la relation amoureuse. Il y a eu une étrange relation amoureuse entre Anaëlle et une prostituée. C'est une forme de relation. Je crois que j'ai rencontré des gens qui se livrent à la prostitution et ces gens m'ont beaucoup marqué dans leurs témoignages. Ils apportent vraiment quelque chose aux autres. Bien sûr, c'est pas à leur souhaiter ce rôle de prostituée, mais j'ai quand même beaucoup de tendresse voilà, pour une certaine personne que je connais. Je vais vous lire ce passage où Anaëlle va voir une prostituée parce qu'il n'arrive pas à avoir une relation amoureuse avec une autre personne. Soirée manquée, peut-être. Anaëlle se sentit seule, à Sarlat, à déjà minuit dans sa chambre sous les toits. Il passa en revue les images du dragon sur l'épaule de la prostituée qu'il affectionnait et la couverture du livre noir. Identique. Il en était presque certain. Mais quel était le rapport entre une prostituée du nord de l'Europe et un mage de 199 ans, décédé en 1916 ? La suite de l'histoire de ce personnage fantastique, auquel Anaëlle croyait, révélait comment il fut blessé dans la forêt des Ardennes, sa mission presque accomplie. Comme promis au vieil homme de Lyon, il retrouva la jeune femme. À l'aurore, dans ce bois des Ardennes, qui semblait endormi, il la guida vers l'issue de sa cachette, une sorte de remise à l'écart d'une ferme. Mais le courage ne le protégea pas de l'absurdité, ni sa sagesse, ni sa quasi-immortalité. Une balle, sortie d'on ne sait où, se figea dans son flanc. Puis, d'autres tirs commencèrent à fuser de toutes parts. La femme qui l'entraînait avec ses enfants l'encourageait à continuer son chemin malgré la douleur. Elle le soutenait en s'éloignant des tirs et se sentait presque en sécurité dans la pénombre d'un bosquet touffu. Mais derrière eux, le village de Louvemont avait basculé dans l'horreur d'un bain de sang mêlé. Ce 21 février 1916, journée de folie dans les bois des Corps, marqua l'histoire et ternira les pages du livre noir. Le style de l'écriture changea très nettement. Des phrases plus longues, moins vigoureuses, mais émouvantes et sensibles, décrivirent la souffrance du blessé et la compassion de la jeune femme. Les mots retracèrent une marche pesante vers la liberté. Les enfants silencieux et prostrés n'osaient plus se retourner. Ils guettaient les yeux de leur mère comme seule lueur dans l'obscurité. Le livre finit, comme essoufflé, sans aucun détail sur la mort de l'homme ou du mage qui s'éteignit dans la ville de Dijon après avoir accompli sa mission au seuil de ses 200 ans. Étrange. Le livre entraînait au-delà de la mort du mage jusqu'au moment où la jeune femme et ses deux enfants retrouvaient leur vieil ami à Lyon. Le rendez-vous convenu. Anaël eut un sourire aux lèvres alors qu'il réalisa la supercherie. Le mage n'existait pas. Comment aurait-il pu raconter au-delà de sa mort ? Pourtant, il consulta avec attention le post-scriptum à la fin du livre. Achevé le 31 décembre 1916 par Elia. Il marqua un temps de réflexion, passant en revue les étapes de la vie du mage et se souvint de ses 20 ans vécus en Corse. Il tourna les pages rapidement en remontant le temps et posa le doigt sur ce prénom. Elia. L'explication la plus simple était que sa dernière épouse l'ait suivi jusque la fin de sa vie à Lyon. Mais rien n'avait mentionné sa présence. Aurait-elle cherché plus tard à comprendre la disparition de son amour, rassemblant les témoignages ? Il suffisait qu'elle ait retrouvé la jeune femme ou le vieil homme à Lyon. Anaël voulait tant croire en la véracité de ce récit passionnant qu'il chercha des explications le confortant dans cette optique. Il ouvrit son ordinateur portable et interrogea un site historique sur la Première Guerre mondiale. Il lut effectivement, je vous passe l'extrait du livre, « Cette bataille à Verdun ». Et puis, il rechercha qui était Eléa, cette femme qui était pour lui juste une prostituée, mais qui en fait a été le véritable amour d'Eléa, le mage.
Merci pour tout ça. Je vais clôturer l'interview avec la question qu'on pose à tous nos invités, qui est celle-ci. Si on vous donnait le choix entre la vie éternelle et le don d'ubiquité, vous prenez quoi ?
Je ne prendrai pas la vie éternelle, je crois que je l'ai expliqué dans Les voleurs de destin, puisque certaines personnes en ont eu la possibilité, ne l'ont pas choisi. Alors le don d'ubiquité.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces qui sont déjà prévues pour que les gens puissent vous rencontrer ?
Oui, alors j'en ai une à Amboise, la librairie Maison de Presse à Amboise, ça doit être le 23 octobre.
D'accord.
Voilà, il y en aura peut-être, j'espère, à la boîte à livres. Ce serait sympa, puisque le livre a été mis en coup de cœur. Je pense que la libraire l'a demandé. Et puis, je ne sais pas, je pense que mon éditrice est très active et régulièrement me propose des dates.
D'accord.
Voilà, ah si. Il y en aura une aussi le 11 novembre à la Maison d'Annie, qui est à Vouvray. C'est une maison très sympathique, qui est en fait un commerce, où dans chaque pièce, vous avez des objets qui sont à vendre, mais qui ne le paraissent pas. On a l'impression que quelqu'un vit là. Et voilà, c'est Annie, la propriétaire, qui est aussi libraire et qui m'a invité à la fois à une exposition de peinture et une dédicace. Parce que comme je vous l'ai expliqué, tout ce que j'écris, je crois que je le peins aussi. Et là, le 11 novembre, à la Maison d'Annie à Vouvray, ce sera l'occasion d'entrer dans l'univers des peintures et de ses livres. Il y aura également des costumes, puisque j'aime aussi créer les costumes qui permettent de vivre dans d'autres vies.
Merci beaucoup.
Merci à vous.